Bonjour à tout le monde, je vous invite à prendre vos Bibles, merci, et trouver Hébreux et le deuxième chapitre. Hébreux chapitre 2. C'est vraiment une grâce et un privilège de pouvoir se réunir ensemble et d'ouvrir la parole de vie. On s'habitue facilement, mais nous sommes tous conscients, je crois, du fait qu'il y a des milliers de chrétiens aujourd'hui qui aimeraient tant avoir ce privilège, mais qui sont isolés par la maladie, par la persécution, par la distance géographique, et qui n'ont pas ce privilège. Nous voulons être reconnaissants. Écoutons la parole de Dieu. Je vais lire les 4 premiers versets d'Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, ou du peur d'être entraînés à la dérive, comme disent certaines traductions, et c'est de cela que j'ai pris le titre. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, la comparaison joue un rôle très important dans ce texte. Je voulais que vous le notiez. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus. Alors, on se demande tout de suite, plus que qui? Une comparaison qui est faite. Un contraste, si vous voulez. Et puis, il dit verset 2, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? La première chose que je veux faire ce matin avec ce texte, c'est d'essayer ensemble de comprendre ces comparaisons. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder un texte et de l'enseigner. On peut, dans un sens, tirer le rideau d'un seul coup et montrer toute la scène, la conclusion, si vous voulez, de ce que le texte enseigne. Et parfois, c'est bien d'approcher le texte comme ça, de dire, voilà ce que le texte nous dit, voilà, maintenant je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment nous arrivons à cette conclusion. Mais l'autre approche, et celle que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est de faire comme si on baissait toutes les lumières et on mettait le spot sur un élément à la fois. On regardait un élément, et puis un deuxième élément, et puis on met une troisième lumière, quatrième spot, jusqu'à ce qu'à la fin, nous puissions finalement voir toute la scène. Nous verrons donc progressivement la scène. Et j'espère que cette approche ne va pas vous frustrer, mais va vous aider à mieux l'apprécier et fera une empreinte encore plus importante sur nos esprits et sur nos cœurs de la véracité, de l'importance des enjeux de ce texte qui est inspiré par Dieu lui-même. Alors, ce texte nous offre plusieurs comparaisons. Et la première chose que nous voulons voir, c'est la révélation qui est comparée. Il y a une révélation, en fait, des révélations ou des annonces qui sont données. Vous avez dans ce texte deux fois le mot « annoncer ». Hein, peut-être vous pouvez les entourer, les souligner ou tracer une ligne entre les deux. Il dit au verset 2, car si la parole annoncée, et puis si vous regardez au milieu du verset 3, un si grand salut, le salut annoncé, c'est le même mot, des choses annoncées. Il y avait à une époque une parole annoncée. Et cette parole n'est pas définie plus que ça, hein, mais nous voyons que cette parole annoncée par des anges a eu quoi? Son effet. Elle a eu son effet. Et c'est quoi l'effet de cette parole qui a été annoncée par les anges? Bien, regardez-le. C'est que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste, quoi? Rétribution. Cela veut dire que cette première parole dont parle le texte comprenait la promesse ou plutôt la menace d'une rétribution pour toute transgression et toute désobéissance. C'était une parole qui menaçait les gens avec la rétribution. Et elle a eu son effet. Alors, si vous connaissez un peu votre Ancien Testament, vous savez que quand il parle d'une parole qui a pour effet que toute désobéissance reçoit une juste punition, il parle de la loi. C'est la loi qui a été donnée avec toutes ces menaces. Comparez donc à la loi qui a pour effet la juste rétribution de toute transgression. Il y a cette parole qui a pour effet, regardez le milieu du verset 3, cette deuxième parole a pour effet un si grand quoi? Salut! Pas rétribution, mais salut! Nous avons donc une deuxième parole de Dieu, mais elle est décrite par son effet ou par son contenu. Verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le salut annoncé? Il décrit la parole par son contenu ou par son effet. C'est une parole de salut. Alors, il y a 100 ans, on a annoncé l'armistice, c'est-à-dire la cessation d'hostilité entre deux armées. Et on pouvait dire à l'époque, as-tu entendu l'armistice? Alors, ce qu'on entend, ce n'est que des paroles, n'est-ce pas? Mais on peut décrire les paroles par leur contenu. Et dans le texte, il y a donc une parole annoncée, verset 2. Cette parole est définie comme ayant pour effet la punition de toute désobéissance. Mais la deuxième parole est définie par son effet bien différent. C'est une parole de salut. C'est même un si grand salut, comme il dit. Il y a un contraste entre ces deux annonces. L'annonce de la loi et l'annonce de l'évangile. Mais d'où vient cette annonce et à qui est-elle adressée? Veux voir, deuxièmement, il y a deux choses ici qu'on va voir ensemble. La source de ces annonces et les destinataires de ces annonces. Qui sont-ils? D'où viennent ces annonces et pour qui sont ces annonces? Nous verrons bientôt par qui l'annonce vient, hein, mais la source ultime de cette annonce n'est pas donnée dans ce texte. Mais le verset 4 nous dit quand même que quelqu'un est actif. Verset 4 dit que c'est Dieu appuyant leur témoignage, etc., par les dons du Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, le Saint-Esprit participe d'une façon ou d'une autre dans ces annonces. Et on va voir un texte qui nous dit très clairement qui est la source de ces paroles. Mais d'abord un mot sur les destinataires. Notez qu'il y a deux groupes. Deux groupes ici. Alors regardez, il y a ces deux, car si la parole annoncée par les gens a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu ou ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Nous. Donc, on sait que la parole annoncée a eu son effet. On sait que toute transgression et toute désobéissance contre cette parole annoncée ont reçu une juste rétribution, mais il ne nous est pas dit qui sont ces personnes qui ont désobéi, qui ont transgressé. Mais contrastés à eux, hein, quels qu'ils soient, il y a nous. Vous voyez, c'est deux groupes. Il y a eux, c'est pas encore qui c'est, mais il y a après nous. L'idée est quand même claire, je crois. Si ils n'ont pas pu échapper, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et maintenant, nous allons voir le texte qui clarifie à la fois la source ultime de ces annonces et les destinataires, les deux groupes. Et le texte se trouve tout au début de la lettre. Donc, vous n'avez qu'à tourner une page, Hébreux chapitre 1, et vous allez voir. Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et l'a établi héritier de toutes choses. Alors notez qui parle. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé, verset 2, qui ? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Donc c'est qui a parlé? C'est Dieu. Dieu est la source de ces annonces. Dieu fait des annonces. Dieu donne des paroles. Il a été dit que cet épître commence avec deux grands faits qui ne sont pas argumentés, mais simplement présumés. C'est quoi ces deux faits? D'abord, le fait qu'il y a un Dieu, n'est-ce pas? C'est jamais argumenté, c'est présumé. Il y a un Dieu. Cet épître dira plus tard que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il quoi? Qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ou qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. D'ailleurs, la Bible commence ainsi. Au commencement, Dieu. Voilà, il présente tout simplement le fait que Dieu soit là. Il n'argumente jamais pour l'existence de Dieu. Donc, il y a ce fait que Dieu existe. Et quel deuxième fait accepté, présumé par ce texte sans être argumenté? C'est que Dieu fait quoi? Il parle. Dieu existe et Dieu parle. Il parle, il se révèle. Et je suggère que vous traciez une ligne entre parler au verset 1 et parler au verset 2. Le premier mot parler englobe tout le temps entre la création et l'incarnation de Jésus. Et le deuxième, donc, tout ce qui suit. Et le christianisme dans son entier, dans son ensemble, repose sur ces deux faits. Dieu existe et il parle d'une manière claire et compréhensible. Donc, quant au chapitre 2, nous lisons d'une parole annoncée ou d'un salut annoncé, nous savons que celui qui a fait l'annonce, celui qui parle dans les deux cas, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et quant au destinataire, nous retrouvons le « nous » au verset 2. Parce que vous avez vu ça du chapitre 1? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé. Mais nous voyons qui est l'autre groupe. Verset 1 dit que Dieu a parlé à qui? À nos pères. Alors, cette épître a été écrite à qui? Aux Hébreux, aux Juifs, chrétiens. Donc, nos pères sont les pères de la nation juive. Hein, les hommes comme Abraham, David, Moïse. Mais avec eux, vraiment toute la nation. Quand il dit nos pères, il parle de la nation dans son ensemble. Un peu comme nous, on utiliserait le mot ancêtre. Dieu a parlé à nos ancêtres. Et voici donc ce que nous pouvons dire jusqu'à présent. Voici la partie de la scène qui est déjà éclairée, j'espère. Dieu a annoncé la loi à nos ancêtres et Dieu nous annonce le salut. Nous, à nous qui sommes présents aujourd'hui. Alors nous restons au chapitre 1, mais nous voulons voir, commencer à voir une troisième comparaison. C'est la manière d'annoncer, la manière que Dieu parle. Je reviens au chapitre 1, verset 1, il dit « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par qui ? Par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, par qui ? Par le Fils. » Vous voyez la comparaison, le contraste ? Après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu a parlé par le Fils. Et qui est le Fils ? C'est Jésus-Christ. Et ce qui suit est une description en sept parties de Jésus-Christ. Nous avons vu ça il y a 15 jours, je crois, à Sarcelles, mais vous pouvez même les numéroter dans votre Bible, si vous voulez. Il y a les deux premières concernent sa position en tant que fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Ça, c'est un regard vers le futur. Deux, par lui, il a aussi créé l'univers. Ça, c'est un regard vers le passé. Et puis les trois prochaines parties de cette description concernent sa personne en relation avec le Père. On est au verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire en relation avec le Père. Numéro 4, il est l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire la personne du Père. Numéro 5, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Mais voici où l'auteur vraiment veut nous amener les deux dernières parties de cette description. Numéro 6, il a fait la purification des péchés. Et voici maintenant l'apothéose. Numéro 7, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'auteur dira plus tard au chapitre 8, verset 1, que le point capital de ce qu'il est en train de nous enseigner est que Christ s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mais on ne peut pas parler de cela aujourd'hui, mais ça c'est vraiment l'enseignement de l'hébreu, de cet épître. Mais je vous demande de suivre avec moi la pensée de cet auteur. Où est-ce qu'il va aller maintenant? Il dit que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, qu'il parle maintenant par le Fils. Et on prépare le troisième spot, hein. On va mettre la lumière sur quelque chose de très important ici. Il va maintenant faire une comparaison. Mais cette comparaison ne va pas être entre Christ et les prophètes. On aurait pu croire, puisqu'il a dit, bon, il a parlé par les prophètes, maintenant il parle par son Fils. Je vais vous faire montrer une comparaison, un contraste entre Christ et les prophètes. Mais en fait, c'est entre Christ et qui ? Vous savez ? Regardez le verset 4. Il est devenu d'autant supérieur à qui ? Aux anges. D'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que le leur. Cette comparaison entre Christ et les anges n'est pas d'une moindre importance. Ce n'est pas quelque chose qu'il dit en passant. Car il va insister sur la supérieure de Christ aux anges jusqu'à la fin du chapitre en employant 9 citations de l'Ancien Testament, 8 qui viennent des psaumes. Et donc le fait que Christ soit supérieur aux anges, vraiment je crois que, bon, je le dis ça comme ça à Saint-Denis, ça peut ne pas dire grand-chose pour nous. Jusqu'à ce que nous nous arrêtions et nous comparions les êtres angéliques avec les êtres humains. Si on recherchait une foi religieuse qui permettrait à quelqu'un de supérieur à nous, de nous représenter devant Dieu, il existe des êtres qui vivent déjà au ciel. Et pour qui nous avons la confiance qu'ils seront reçus devant la face de Dieu. Dieu les appelle les saints anges. Il dit jamais les saints humains. Ou la sainte race humaine. Mais ici, il veut prouver que Christ est supérieur même aux anges. Et la preuve est qu'il est assis à la droite du trône de Dieu, Hébreux 1:3. Mais ce qui est frappant, vous ne l'avez peut-être pas noté avant, c'est que même dans son incarnation, c'est-à-dire même après que Jésus soit devenu homme, il demeure supérieur aux anges. Hébreux 2:7 a dit que Christ a été abaissé pour un peu de temps. Vous connaissez ce verset ? Au-dessous des anges. Okay ? Alors ça c'est vrai, mais il faut qu'on reconnaisse que même dans son humiliation, il demeure quand même supérieur aux anges. Il a été abaissé en dessous parce qu'il a été abaissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quel ange a été abaissé jusqu'à la mort ? Aucun ange a connu de tel abaissement. Même le fait que Christ devienne homme, il s'abaisse plus que les anges. Quel ange est devenu homme ? Donc il s'est abaissé plus que les anges se sont abaissés, mais même dans son humiliation, même sur la croix, il demeure supérieur aux anges. Et on voit que Christ est supérieur aux anges, même dans son incarnation, par le fait que 3 des 9 citations de l'Ancien Testament parlent de Christ dans son incarnation. Regardez le verset 5. Il dit, car auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, ce qu'il va maintenant dire à Jésus-Christ, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est une citation duquel psaume? Voilà, le psaume 2. Et acte 13, verset 33, on a donné tout un message à cela, à Pâques, je crois. L'applique à quoi? Est-ce que vous vous rappelez? À la résurrection du corps de Christ, à la résurrection de Christ. Quelque chose qui s'est passé dans son incarnation. Regardez le verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né. Alors, introduire dans le monde, ça parle de quoi? Son incarnation, hein, quand il vient dans le monde. Et notez ce qu'il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand? Quand il entre dans le monde. Il faut qu'il adore. Et ne faites pas maintenant, mais lisez plus tard Luc 2 et vous verrez que c'est exactement ce qui s'est passé. Luc 2:13 dit, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Ce sont les anges. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Louant Dieu. Louant Dieu. Ce verset en hébreu nous dit que tous les anges y étaient. Il n'y a pas un qui n'est pas venu adorer l'enfant. Dieu a dit que tous les anges l'adorent. En tant que homme. Et même bébé. Et puis regardez le verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voici l'ascension de Christ, c'est-à-dire quand il est monté de la terre au ciel, à la droite du Père. Ce qui est la suite, et même selon la Bible, la récompense de son humiliation. Philippiens dit qu'il s'est humilié jusqu'à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Il est important pour notre foi de comprendre que même dans son incarnation, Jésus-Christ était supérieur à toute intelligence créée. Est-ce que Dieu a jamais dit ces choses à un ange? C'est ça l'argumentation ici. Est-ce que Dieu parle comme ça à des anges? Mais la plus grande preuve que Jésus soit supérieur aux anges est qu'il est fils. Vous avez noté ça? Verset 2, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le fils. Verset 5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Ou, je t'ai engendré aujourd'hui, encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ou le verset 7, de plus, il dit des anges, il fait des anges, des esprits et ses serviteurs, une flamme de feu, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. On s'est dit, bon, qui sont les anges? Qui sont les anges? Regardez le verset 7. Il dit aux anges, Il fait de ses anges des esprits et de ses quoi ? Serviteurs. Les anges sont donc les quoi de Dieu ? Ils sont ses serviteurs. Ses servants. Ses serviteurs, pardon. Ils sont très loin ici d'être fils. Mais la différence est encore plus grande. Notez qui les anges servent au verset 14. Ce dernier verset, ne sont-ils pas tous des esprits au service, vous voyez, de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui ? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous, les sauvés. Donc Dieu envoie les anges dans le monde pour servir les sauvés. Les héritiers du salut. Mais quand Dieu envoie son Fils dans le monde, il dit que tous les anges l'adorent. La différence entre Jésus et les anges est donc immense. Immense. Et pourquoi les anges, peut-être ça vous vient à l'esprit, pourquoi les anges sont-ils envoyés pour servir les sauvés ? Regardez. Chapitre 2, verset 5. En fait, Hébreux 2, 1 à 4 est une parenthèse. Et vous pouvez lire de la fin du chapitre 1 directement au chapitre 2, verset 5 pour voir la suite de sa pensée. Je vais faire ça. Je vais commencer Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et puis je saute tout de suite au verset 5, chapitre 2, parce qu'il explique pourquoi ils nous servent. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Vous voyez, les anges servent les humains qui doivent hériter du salut, parce que ce n'est pas les anges que Dieu a destinés à régner sur la terre, mais en fait, c'est les humains. Et Adam, nous savons, a échoué. Dieu lui a donné de régner, il a échoué. Et c'est pour cela que Dieu envoie un deuxième Adam. Et c'est à travers l'homme par excellence, le Fils de Dieu devenu homme, que le règne des humains sur la terre sera accompli. Est-ce que nous comprenons tous que Jésus est toujours, aujourd'hui, homme ? Il est humain. Et il règnera sur la terre pour 1000 ans dans son corps humain. Dans sa qualité de Dieu fait homme. Dieu a destiné la terre à être gouvernée par un humain. Et c'est un humain, Jésus-Christ, qui le fera. Et 2 Timothée 2:12 dit, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Alors pour résumer donc, Jésus est bien supérieur aux anges. Car il est le Fils, tandis que les anges sont les serviteurs de Dieu envoyés pour servir les héritiers du salut. Et nous pouvons maintenant revenir à notre texte, car nous sommes prêts pour cette troisième comparaison. Nous avons vu la révélation comparée, il y a une parole annoncée, la loi, un salut annoncé, l'évangile. La source, dans les deux cas, c'est Dieu qui parle, les destinataires, c'est nos pères, les Juifs, sous l'Ancienne Alliance, et puis nous, sous la Nouvelle Alliance. Et puis nous avons vu que le texte parle longuement de la supériorité du Fils aux anges. Pourquoi ? Ben c'est là où il introduit cette parenthèse. Et nous voyons la manière d'annoncer qui est comparée. Regardez encore Hébreux 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous nous soyons emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par qui ? Par les anges a eu son effet. Je saute au verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, le salut annoncé d'abord par qui ? Par le Seigneur. Vous vous rappelez qu'en Hébreux 1, la comparaison était entre les prophètes par qui Dieu a parlé et puis le Fils par qui Dieu parle. Ici, c'est entre les anges par qui Dieu a parlé et le Fils par qui Dieu parle, ou le Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu parlait souvent par les anges. On nous dit dans les Actes qu'une grande partie de ce que Dieu a donné à Moïse dans la loi était en fait donné par des anges. Pendant la période des patriarches, il y avait des révélations angéliques, des anges qui sont venus à Jacob ou à Abraham. Pendant la période des juges, il y a eu une révélation angélique, des anges qui sont venus à plusieurs des juges leur annoncer des choses. Pensez à Daniel et à sa réception de la parole de Dieu à travers un ange. Alors, à l'époque de l'Ancien Testament, l'apogée de la révélation divine n'était pas quand un prophète parlait, en fait. L'apogée était quand un ange de Dieu venait et parlait. Ça, c'était le plus grand, le plus important. Mais nous voyons ici que les anges ne sont pas le sommet ultime de la révélation. Jésus est présenté ici, dans chapitre 2, pas simplement comme fils, mais en fait comme la parole de Dieu qui annonce, le Seigneur qui parle. Et nous avons un mot de Dieu qui ne vient pas à travers un prophète, ni même à travers un ange. Nous avons le message du salut qui est annoncé à travers qui ? À travers le Fils, le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous parle. Et il faut ajouter à cela, regardez le verset 4, Hébreux 2. Dieu, référence à Dieu le Père, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par lui donc du qui ? Du Saint-Esprit. Vous avez le Seigneur Dieu le Fils, Dieu le Père, et Dieu le Saint-Esprit. Chaque membre de la Trinité est impliqué dans cette parole de salut qui nous est annoncée aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a beaucoup qui diraient, si un ange me rend des visites, je croirai, j'obéirai ou je me repentirai. Là, je serai vraiment impressionné. Mais c'est le Fils qui vous parle en cet instant même, mes amis. C'est le Fils qui vous parle. Voici sa parole. Aujourd'hui, vous entendez sa voix. Éphésiens 2, 17 dit que il, Jésus-Christ, est venu annoncer la paix à vous. Je suis devant vous remplissant les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par moi, je vous en supplie, au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui vous parle à travers même ma voix et la Bible que nous regardons ce matin. Alors nous avons vu la révélation comparée, c'est une parole annoncée, le salut annoncé, la source. Et les destinataires aussi comparés. Puis nous avons vu que le texte parle longuement de la supériorité du Fils aux anges. Pourquoi ? Pour nous préparer à cette comparaison entre les manières dont Dieu nous parle. Il nous parle maintenant par son Fils. Si vous rejetez sa parole, ce n'est pas la parole d'un ange que vous rejetez, c'est la parole du Fils, du Seigneur. Mais notez une autre comparaison ou contraste dans ce texte, c'est la réponse à l'annonce. Comment est-ce que les gens ont réagi face à la parole de Dieu? Quelles sont les réponses à ces annonces que Dieu a faites par les anges ou par son Fils? Notez la réponse à la parole annoncée par les anges. Verset 2, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. » Donc la parole annoncée par les anges a été reçue non avec reconnaissance, non avec soumission, mais nous voyons avec quoi ? Avec des transgressions et des désobéissances. C'est comme ça qu'ils ont reçu la parole. C'est grave, non ? Dieu vous donne une parole par un ange, par Moïse, et vous désobéissez? Et comparé à cela, quelle est la réponse éventuelle que nous pouvons avoir envers la parole du salut? Il dit, comment échapperons-nous en quoi? Négligeant un si grand salut. Le fait de négliger l'annonce d'un si grand salut est mis en parallèle ici avec les transgressions et la désobéissance du peuple d'Israël. En fait, il dit, vous faites la même chose qu'eux. Ils ont désobéi, ils ont transgressé la loi, et si vous négligez ça, ça revient au même. C'est la même chose. Nous trouvons ce mot traduit « négliger » en Matthieu 22. Ne cherchez pas, mais Jésus raconte là une parabole. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui a fait des noces pour son fils. Il y a l'idée de fils ici. Et il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt. Venez aux noces !» Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Et c'est ce même mot. Il dit « sans s'inquiéter ». De l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Quelle est leur réponse à l'annonce, à l'invitation? Ils sont tous partis sans s'inquiéter. Je vous donne quelques traductions qui essayent de capter ce mot, mais les invités restaient indifférents. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à ses affaires. Mais ils n'en tinrent pas compte. Mais les invités ne se soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. Mais les invités n'y font pas attention. C'est ce qui se passe chaque dimanche lorsque la parole du Seigneur vous est annoncée. Les invités ne tiennent pas compte. Certains négligent l'invitation. Ils ne font même pas attention. Parfois, même pas pendant le serment. Mais ne pas faire attention à la parole de l'Évangile équivaut les transgressions et la désobéissance contre la loi de Dieu sous l'ancienne alliance. Alors, êtes-vous conscient, mes amis? Chacun, posez-vous la question à vous-même. Sommes-nous conscients de la gravité de ne pas nous inquiéter de la parole du salut qui nous vient de Dieu par son Fils, le Seigneur? Ou si nous passons à côté d'un salut si grand, comme dit une traduction. Si on passe à côté, c'est grave. Extrêmement grave. Et le message est clair. Négliger ou ne pas faire attention n'est pas mieux que de transgresser ou désobéir. Donc nous avons vu la révélation comparer la source, les destinataires, les manières dont Dieu nous parle, les anges ou son Fils. Nous avons vu les réponses qui malheureusement dans les deux cas ne sont pas bonnes. Et encore une, les conséquences comparées. Si la parole annoncée par des anges a eu son effet, quel effet? Toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Ça, c'est l'effet de cette parole qui s'est passée. Qu'est-ce qu'il dit? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Sous l'ancienne alliance, la réponse de Dieu à toute transgression et toute désobéissance était quoi? Une juste rétribution, punition. Et pour nous, si nous ignorons la parole du salut, qu'est-ce qu'il dit? Comment échapperons-nous? Mais échapperons-nous à quoi? Qu'est-ce que cela suggère? Que nous aussi, nous allons recevoir une juste rétribution. Comment échapperons-nous à cette même juste rétribution? que nos pères ont reçu dans le désert quand ils ont rejeté la parole de Dieu qui leur est venue par les anges. Écoutez, ce même contraste, il revient plus tard dans la lettre, en Hébreux chapitre 2, il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux, et là il parle encore des enfants d'Israël, hein, ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé. » Et là il y a même un contraste, il dit « Comment échapperons-nous ?» Il dit « Non, en combien quoi ?»« Moins échapperons-nous ?» Si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, ça c'est Jésus-Christ élevé à la droite du Père. Je vous ai dit que Hébreux 2, 1, 4 est une parenthèse, c'est le premier de plusieurs passages d'avertissement. Et notez le lien entre le premier verset et ceux qui suivent. Nous avons vu les versets qui suivent, ce n'est que le premier verset que nous n'avons pas encore vu. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, vous voyez le car ? Car, pourquoi ? Ben, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, ben, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Vous voyez le quart du verset 2, toutes les comparaisons ou les contrastes qui suivent sont là pour donner du poids à ce qu'il dit au verset 1. Attention, ce que je dis au verset 1 est important, car regardez, s'ils n'ont pas échappé, comment échapperons-nous? Alors qu'est-ce qu'il y a au verset 1 qui est si important que l'auteur se sert de tous ces contrastes pour nous impressionner de sa gravité? Il y a un danger. Un danger, mes amis, pour chacun de nous. Alors, après avoir regardé les comparaisons, il faut savoir distinguer le danger. Quel est le danger? Pour ceux qui assistent à l'église ici à Saint-Denis, quelle est la crainte du Saint-Esprit à notre égard? Il dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons, quoi? Emportés loin d'elles. Ça, c'est le danger. Et si vous n'êtes pas conscient du danger, c'est encore un plus grave danger pour vous. Le mot traduit « être emporté loin » est une métaphore nautique. Ça vient de l'idée des bateaux, la mer. L'idée ici est de partir à la dérive. Ce n'est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Et donc, ça a été traduit de diverses manières et je vous lis plusieurs. « Afin de ne pas être entraîné à la dérive » ou « de peur d'aller à la dérive » ou le Martin dit « de peur que nous nous laissions écouler » ou le Darby, de peur que nous nous écartions. C'est ce qui se passe, imaginez un bateau, un petit bateau, qui n'est pas amarré, quand ce n'est pas attaché. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bateau va rester pile poil sur place, à côté du quai? Certainement pas. Les courants sous le bateau l'entraînent, ben on ne sait pas où. Sentez-vous le danger de partir à la dérive? Combien de personnes qui ont passé des mois, voire des années, dans cette église ont depuis été emportées loin de la parole du salut? Ce dont il parle ici n'est pas quelque chose qui peut arriver à un hindou ou un musulman. C'est quelque chose qui ne peut qu'arriver à quelqu'un qui a été auparavant près de la parole, en relation, certaines relations avec ce si grand salut. Un hindou qui n'a jamais entendu parler de l'évangile ne peut pas dériver. Partir à la dérive est le danger pour nous qui avons grandi dans des foyers chrétiens. Partir à la dérive est ce qui se passe lorsque vous êtes dans un bateau et le courant est imperceptible et il n'y a pas d'ancre. Et donc le bateau commence à dériver, tout doucement. Et vous savez bien, je crois, que les courants dans ce monde sont forts. Lorsque vous êtes adolescent, vous commencez à sentir les courants du monde qui vous tirent dans un sens ou dans un autre. Mais après, vous devenez ce qu'on appelle un jeune adulte et vous découvrez que les courants deviennent encore plus forts. Et puis vous entrez dans la vie professionnelle, vous vous mariez, vous partez vivre dans une autre ville loin de la famille, et les courants s'agitent avec une force de plus en plus forte sous votre barque. Et une chose est sûre et certaine, si vous n'avez pas d'ancre sûre et solide, vous allez certainement partir à la dérive. Vous n'allez peut-être même pas le percevoir au début. Vous allez pouvoir dire, non, je peux m'éloigner un peu du port et sans grand danger. Je peux me garder de ces courants qui tirent les autres. Je suis plus fort qu'eux. Mais vous êtes en train d'être emporté à votre insu. Alors savez-vous distinguer le danger? Allez-vous ignorer les avertissements jusqu'à ce que ce soit trop tard? Votre bateau est pris par les courants et vous êtes là à ne rien faire? Ça ne vous gêne pas? Vous êtes prêt à négliger ce si grand salut? C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'acte positif ou transgression spécifique qu'il faut faire. Il faut simplement négliger ce si grand salut. Passer à côté. Ne pas prêter attention. Ne pas s'inquiéter de ce que dit la parole de Dieu. Dans les mots du pilote à Jonas, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ou dans les mots de Dieu en Romains 2, je dis ça à vous qui négligez, il y a des gens qui négligent aujourd'hui. Vous les négligeants, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Vous dites, mais rien ne se passe. Dieu est riche en bonté. Méprises-tu sa bonté? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement. Et ça, c'est tous ceux qui négligent. C'est un endurcissement qui se passe. Et par ton cœur impénitent, tu t'amasses actuellement un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Comme il dit ici en hébreu, la juste récompense ou le juste jugement de Dieu. Vous amassez maintenant la colère de Dieu. Pourquoi? En négligeant. C'est tout. En négligeant. Le danger, c'est de même que les enfants d'Israël ont transgressé la loi, nous partons à la dérive en négligeant ce si grand salut. Alors je termine avec ça. Activez l'antidote. Quel est l'antidote? Le remède. Pour pas que ce soit vous, j'espère que vous avez un désir, le Saint-Esprit en vous qui dit, Seigneur, que ne ce soit pas moi. Regardez ce qu'il nous dit de faire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus, quoi? Nous attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas partir à la dérive. Nous devons aujourd'hui encore plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Écoutez encore ce mot, comment les traductions le rendent, ce verbe. Ça peut nous aider. Nous devons nous attacher avec plus de soin. C'est Jésus qui vous parle maintenant. Il dit, vous devez vous attacher maintenant avec plus de soin. Ou il nous faut prendre garde de plus près. Ou nous devons nous attacher d'autant plus fermement. Ou nous devons prêter une attention d'autant plus vive. Ou nous devons prendre encore plus au sérieux ce que nous avons entendu. Ailleurs, ce mot est souvent traduit « prendre garde » ou même « écouter attentivement ». Alors, je vous demande à chacun, avez-vous mis au point des moyens de prêter une attention plus vive que la plupart de ceux qui se disent chrétiens? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, cette semaine, pour prêter plus d'attention, pour tenir plus fermement ces choses? Qu'est-ce que vous allez faire? Ou est-ce que vous allez aussi les négliger? En vieillissant, les forces deviennent de plus en plus nombreuses pour vous pousser à la dérive. Vous avez un conjoint non sauvé, des enfants égarés de la foi, l'attrait de la richesse ou le désir d'être accepté par la culture, ces choses sont des courants très forts qui nous tirent et nous poussent d'un côté à l'autre. Et nous sommes commandés à trouver des moyens de faire attention, de nous attacher avec plus de soin. Si on ne le fait pas, c'est sûr, nous allons partir à la dérive. Il y a toujours le courant. Le courant ne va jamais cesser. On aimerait bien être au milieu d'un lac où rien ne bouge. Non, nous sommes sur une rivière et le courant, il bouge sur nos pieds et sur notre barque. Vous ne pouvez pas rester immobile. Vous allez bouger dans un sens ou dans un autre. Il existe des moyens de nous tenir à contre-courant. Et parfois, il faut être prêt à être radical. Il faut être prêt à être radical. Parfois, il faut couper la télé le soir. Jésus a parlé de couper la main droite. C'est pas plus radical que ça, non? Il y a des personnes ici qui ont certainement des amitiés qui vous poussent à la dérive. Il y a des jeunes, vous avez des amitiés, vous voulez entretenir, et vous êtes obligés de choisir entre Christ et vos amis. Il y a des personnes dans cette salle qui m'écoutent, qui peuvent facilement s'asseoir pour 2 heures d'affilée devant la télé ou l'ordinateur regarder un film. Vous faites ça sans réfléchir. 2 heures, imaginez! Mais qui ne donne même pas 1 heure dans toute une semaine à lire la Bible. Vous n'avez pas le temps de venir à la réunion de prière. Non, mais vous pouvez passer des heures dans la mois à être sur Internet. Cliquez, cliquez, cliquez. Qu'allez-vous faire pour vous attacher avec plus de soin à la parole d'un si grand salut? Peut-être vous devez vous mettre à lire beaucoup plus la Bible. C'est souvent le cas, hein. Les gens s'égarent, ils ne lisent pas la Bible. Peut-être vous devez vous décider à lire un livre chrétien. Peut-être vous devez parler avec quelqu'un, demander leur aide. Un moyen important est donné plus loin dans la section d'exhortation en Hébreux 10 quand il dit « N'abandonnons pas quoi notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Dites pas « Je ne viens pas à l'église parce que les choses ne vont pas bien. » Non, il faut prêter encore plus attention quand les choses ne vont pas bien. Pensez à ce qui vous est donné. Il vous est offerte une parole de salut. Pensez à ça. Négligez ça. On vous offre 1 million d'euros et vous dites, je n'ai pas le temps de venir le chercher. Vous avez négligé un si grand cadeau. Pensez à qui vous la donne, ou le donne ce cadeau. C'est Dieu lui-même. Pensez à la personne par qui cette annonce de salut vous est donnée. Elle vient aujourd'hui pas par un prophète, pas par un ange, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, qui adresse sa parole à votre cœur. Il se tient devant la porte de votre cœur et il frappe. Et pensez au danger qui vous menace d'errer loin de ce salut en simplement le négligeant. Et puis pensez aux conséquences qui certainement vous attendent si vous vous détournez de ce message, une ruine éternelle. Je prie que cette parole ne cessera de sonner dans vos oreilles. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Une chose est sûre, vous ne pourrez pas échapper à Dieu. Hein, vous allez le rencontrer bientôt, ça c'est sûr. Soit comme votre sauveur, soit comme votre juge, soit dans sa grâce, soit dans sa colère. Vous allez le rencontrer. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Prions. Ô Père, que par ton esprit, tu prennes les paroles de Christ et tu les appliques à chaque cœur. Que tu ailles chercher la brebis la plus éloignée, la plus en danger, sans même le savoir. Et que dans ta grâce et dans ta pitié, tu la ramènes. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen.